On recommence.
Comment ?
Dominique.
On a continué.
Voilà. Je crois qu'on a beaucoup continué pendant la pause. Bien voilà. Maintenant, à vous de parler. Je sais que Hugues a déjà des choses à dire. Il va te rentrer dans l'art tout de suite.
Non, non. Vous étiez ouvert au débat, donc c'est l'idée du débat. Beaucoup apprécié votre exposé, surtout sur les aspects sociologiques. Je suis un tout petit peu plus réservé sur les aspects intelligence artificielle, mais comme ils ont occupé une large partie de votre exposé, je vais vous apporter deux ou trois rectificatifs. Je ne suis pas persuadé que ça invalide l'essentiel de ce que vous avez dit, mais deux ou trois, mais voilà, pour l'exactitude, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mes correctifs. Donc d'abord, vous avez fait une opposition fréquentiste bayésienne, mais un peu mal à l'aise, parce que les règles de Bayes, toute la statistique bayésienne, viennent du monde fréquentiste. Donc ce n'est pas une opposition tout à fait légitime. Et d'ailleurs, les algorithmes de machine learning sont évidemment fréquentistes. Et un des algorithmes les plus utilisés, ce qu'on appelle le classificateur bayésien, comme vous le savez. Et donc c'est pour montrer que Bayes, c'est pas... Alors c'est vrai qu'il y a eu un détournement des probabilités sous la forme subjective, qui a été l'objet d'un gros débat. Hein, on peut réinterpréter Bayes sous la forme des probabilités subjectives, mais bon, l'essentiel des machine learning, c'est bayésien et c'est fréquentiste. Donc, juste un petit correctif. Je ne sais pas si vous êtes.
Ce sera un débat passionnant, mais qui va rentrer dans les. Il y a beaucoup d'historiens des statistiques qui maintiennent quand même que. Parce que là, c'est la version de Laplace que vous donnez. Parce que Laplace était fréquentiste, et c'est lui qui a formulé le théorème de Bayes. Donc, c'est la tradition laplacienne. Il y a des gens qui font une référence vraiment à la probabilité subjective, et c'est l'histoire que des statistiques que fait Porter, que font Hacking et que font Desrosières, c'est de maintenir l'idée que ces deux courants sont quand même en opposition. Et après, quand on regarde les techniques de machine learning, elles sont en fait fréquentistes et bayésiens devient. Il y a un moment où on ne sait plus quelle est la division, mais il y a des endroits plus bayésiens sur des techniques d'arbre de décision, etc. Et puis à SVM, c'est fréquentiste.
Hein, mais même les arbres de décision, c'est pas les
arbres. Non,
c'est pas très intéressant. Donc, la deuxième partie, c'est sur l'intelligence artificielle, comme vous parliez des trois intelligences artificielles. Alors, évidemment, là, c'est quand même.
Les trois, juste pour cybernétique,
la symbolique et la symbolique. Parce que vous avez dit qu'il fallait faire un effort de dégooglisation, vous êtes hyper Google, en fait. Parce que, en fait, vous n'avez parlé que de l'intelligence artificielle à la mode Google, c'est-à-dire deep learning, etc. Je voudrais quand même dire que votre GPS, ça n'a rien à voir avec le machine learning. Les voitures autonomes, ça n'a rien à voir avec le machine learning. Le Watson, vous savez qu'un des grands exploits pour moi de l'intelligence artificielle du 21e siècle, ça n'est pas du tout le deep learning, parce que de fait, il n'y a rien de nouveau dans le deep learning, comme vous l'avez d'ailleurs pu juste dire. En 50, on parlait des réseaux de neurones et tout ça. Simplement, on a plus de données, on a un peu bricolé les algorithmes pour qu'ils marchent un peu mieux, mais là, il n'y a vraiment rien de novateur. Ce qui est très nouveau, c'est par exemple cette espèce de grosse boîte à outils IBM a fabriquée, qui s'appelle Watson, qui est extraordinaire. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, Watson, c'est celui qui a gagné une question pour un champion, et qui aujourd'hui remplit tous les cabinets pour. On va parler de médecine aussi, qui remplit tous les cabinets généralistes aujourd'hui dans le monde médical. Il n'y a pas beaucoup de machine learning, en revanche, il y a l'utilisation de données. Donc parfois, les gens font une confusion entre machine learning et. Utilisation de données. Les systèmes experts dans les années 80, ils avaient des bases de connaissances qui étaient limitées. Aujourd'hui, la base de connaissances des systèmes experts, c'est Wikipédia, ou c'est les encyclopédies qui sont en ligne. Mais c'est toujours la vieille IA. C'est-à-dire, c'est la vieille IA avec beaucoup plus de données. Ça n'est pas du machine learning. Il y a des confusions qu'on fait parfois et qui, en tant qu'un peu praticien de l'intelligence artificielle, m'énerve un peu. Voilà. Et donc, les deux vieilles intelligences artificielles sont toujours hyper à la mode. Elles fabriquent des produits qui sont beaucoup plus intéressants, à mon avis, que le deep learning, et on ne doit pas les occulter. Ça, c'était quelques petits rectificatifs. Dernier, et puis je vous le dis. Dernier, c'était Twitter et le fait de la prévision. Ouais. Alors, en fait, on a fait des algorithmes dans mon labo qui prévisaient et qui ont prévu avec exactitude le score que faisait Bart de Wever sur Bart de Twitter.
Que faisait
Bart de Wever Bart de Wever aux élections.
C'est un politicien très important.
Et donc, en fait, IBM, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas voulu dire, mais ils avaient prédit, je le sais de sources sûres d'IBM, ils avaient prédit la victoire de Trump sur base des tweets. Alors, mais c'est vrai que ça circule, et je pense que c'est pas faux. Donc, juste pour faire un petit rectificatif, c'est vrai que les gens ne disent pas la vérité sur Facebook, etc., mais les algorithmes, aujourd'hui, sont capables de déjouer les mensonges. C'est-à-dire que, sur base des comportements, vous avez raison, les comportements sont, en fait, la vérité dans les comportements, et du coup, on a des algorithmes qui passent outre les mensonges que vous exposez sur Facebook ou Twitter, et qui sont capables de voir la vérité à travers le mensonge. Donc, c'est des algorithmes, finalement, qui sont un peu méta, et qui peuvent prédire beaucoup plus et beaucoup mieux que ce que vous... Et dans Twitter, il y a beaucoup plus d'informations, pour autant qu'on sache aller la chercher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de signal que de bruit
mais il faut évidemment les algorithmes. Ouais.
Voilà, j'ai fini. C'est très passionnant, il faudrait qu'on prenne du temps pour discuter et que vous m'expliquez le méta-algorithme qui parce que, mais bon, je connais pas très très bien ces objections et je suis d'accord avec vous. Hein. J'ai bien dit que l'association apprentissage, deep learning, etc., était un collage beaucoup, beaucoup trop rapide dessus. Simplement, votre réaction, elle est quand même, me semble-t-il, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec les chercheurs qui font ça, elle est assez typique justement du conflit entre les trucs. C'est-à-dire, ce qu'il faut vraiment entendre par deep learning, je ne l'ai peut-être pas dit assez, c'est que c'est l'idée de calculer, on pourrait dire que c'est des algorithmes perceptifs. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent aller sous la règle, sous le symbole. Ils décomposent la donnée, ils regardent les pixels des images arrivées, etc. Donc on va dessous pour essayer de capturer des règles. Il y a un côté immanentiste et complètement inductif. On va chercher des règles sous le réel en décomposant complètement les données parce que c'est des règles justement qu'on ne saurait pas apprécier sous les formes des règles symboliques, etc., etc. Et donc le fait que le perceptif par le deep learning sont en train de craquer beaucoup de choses, ça crée quand même beaucoup de tumulte chez les gens qui font de l'intelligence artificielle depuis 50 ans et qui tout d'un coup voient quand même arriver un petit mouton noir qui est en train de mettre le
c'est pas
voilà. Alors, vous avez raison, il faut maintenir absolument la pluralité de ces formes de calcul et d'intelligence qui sont extrêmement différentes. Mais simplement, voilà, il y a des moments où il y en a qui sont très en phase et qui produisent, qui craquent. Hein, c'est vraiment l'idée qu'on passe une rupture et puis que d'autres, en revanche, stagnent sur un étiage où ça progresse, mais ça progresse très lentement. On est quand même dans ce domaine-là. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec les gens du sémantique parce qu'il y a aussi cet aspect pour Watson. Watson, c'est du sémantique plus de la. Quand même, c'est massivement statistique. C'est massivement statistique. Moi, je l'ai vu peut-être pour l'anecdote parce que là, je connais bien le dossier qui est l'arrivée de Google pour les gens. Il y a toute une tradition de traitement automatique de la langue, de traitement lexico-sémantique. Et ces gens, ils pensaient que le moteur de recherche... Et d'ailleurs, il y en a toujours dans les laboratoires à Paris, au MIPSI, c'est toujours des gens qui pensent que Google, c'est la mauvaise solution pour traiter l'information, le PageRank, qu'il faut faire du sémantique, qu'on va y arriver. Google a plein d'outils sémantiques, mais c'est quand même le jus de lien qui fait tenir toute la structure sur laquelle ensuite on fait du lexical. Et ces gens-là, quand le PageRank est arrivé, ils ont mis... C'est fascinant, parce que le marché avait choisi, les utilisateurs avaient choisi, avaient voté, mais ils ont mis 6-7 ans à arriver à dire « Ah oui, quand même, ça marche. » Il y a quand même des concurrences entre qui fait qu'on est attaché à des paradigmes et que... voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent.
Mais je suis le premier à dire que le machine learning et la traduction est un parfait exemple, vous l'avez très bien expliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, les anciens du langage naturel, c'est-à-dire la linguistique syntaxique, sémantique, toutes ces traditions-là, est en train d'être mise au rancard par... Mais quand vous voyez le traducteur de Google, ça marche pas mal, mais j'ai fait cet exercice un jour, mais ça marche pas terrible, quoi. Parce que justement, on a mis au rancard des gens qui pouvaient juste...
Oui, vous avez absolument raison, et ces gens ne sont pas contents. Et ça me marque. Le paradoxe, c'est que dans le modèle... Ce que j'ai appelé, c'est évidemment complètement caricatural, le modèle 2, là, les gens de la syntaxe et du langage. Leur idée, c'est d'arriver un jour à une traduction parfaite. Leur horizon, c'est la perfection de la traduction. C'est vraiment qu'un jour, le langage automatique et le langage, soit du langage naturel. L'horizon de la statistique, c'est qu'on sait que ce ne sera jamais parfait. C'est-à-dire qu'on arrivera toujours. Donc on voit bien que le principe d'efficacité qui pousse là, les gens sur le perceptif, c'est de faire la statistique résout les problèmes, mais elle ne trouvera jamais la solution au sens de la solution pure et parfaite. C'est des débats moi qui me fascinent, que j'adore, hein, parce que c'est un monde dans lequel il y a plein d'écoles, il y a plein de traditions, et puis voilà, ça bouge. Voilà, ça bouge constamment.
Il y a des effets de mode.
Et il y a des effets de mode. Et moi, je suis très convaincu par les gens comme vous, hein, c'est-à-dire que là, on est dans une mode. Deep learning qui va montrer ses limites assez rapidement, mais bon, voilà.
Oui, parce qu'il y a les effets de funding aussi, hein, de financement après derrière ces modèles, qui expliquent aussi les rivalités entre les
mais là, on rééquilibre. Si on veut regarder les investissements, on rééquilibre des investissements qui, quand même, ne leur étaient pas du tout favorables pendant 30 ans. Donc, c'est pas illogique qu'ils récupèrent.
Vous avez terminé tout à l'heure en disant qu'il faut désenvoûter la puissance et que finalement c'est entre guillemets assez bête, c'est une question de traitement statistique, il n'y a rien de magique là derrière, et que ce n'est pas qu'il n'y a pas une volonté dans l'algorithme, mais en matière de traitement de l'information. Est-ce qu'on pourrait pas, ou est-ce qu'il y a un risque réel, effectivement, d'avoir un algorithme qui est construit pour amener les gens à penser d'une certaine façon. Enfin, ce que Noam Chomsky avait appelé la fabrication du consentement, est-ce qu'on ne peut pas utiliser tous ces outils, ces bases de données, etc., pour manipuler des masses et manipuler l'information en masse?
Oui, un algorithme, c'est programmé, donc il y a une intention du programmateur, et cette intention, elle va passer dans le système, donc on peut pas y avoir d'influence. Donc moi, le petit décalage que j'essaye de faire passer et comprendre, c'est que nous, on reçoit la prescription algorithmique comme étant un jugement intentionnel, je dis substantiel, c'est-à-dire on va regarder le contenu du jugement. Donc je tape un nom de journaliste ou de personnalité, et l'autocomplète de Google, qui, vous savez, ajoute le truc, va ajouter juif pour certaines personnalités. Et moi, je vais dire, c'est dégueulasse, il est antisémite. Donc, Google n'est pas antisémite, c'est une procédure statistique. C'est juste ça. Hein. Donc, et ceux qui l'ont codé ne sont pas antisémites, mais ils ont mis en place une procédure statistique qui est de faire la fréquence, et puis la fréquence plus votre personnalisation, un jacquard dessus, et puis en fait, les propositions qui sont mises en place. Et donc, c'est bien la procédure statistique qui fait que, parce que beaucoup d'autres ont associé le nom de cette personnalité et le mot juif, que cette chose va arriver dans mon expérience et que je vais la juger moralement condamnable, etc. Mais moi, évidemment, ma réaction est immédiatement intentionnelle. C'est-à-dire, j'avais considéré qu'il y a une intention. Et donc, quand je dis désenvoûté, c'est dire, c'est une procédure statistique, elle rate. Et du coup, ça a des conséquences, c'est que quand on dit celui qui fabrique l'algorithme pouvait avoir des intentions, on est en train de dire qu'il pourrait avoir une intention substantielle qui est de nous faire ça. Alors, il peut l'avoir, nous orienter politiquement. Mais pour que son intention devienne une réalisation concrète, il va falloir transformer « je veux orienter les gens à droite » en une procédure qui permet d'enlever les sites de gauche pour que les gens voient que des informations de droite. Et donc, il y a ce petit chiffre qui est de dire qu'on n'est pas dans le modèle Chomsky, c'était de dire les journalistes, ils sont idéologiquement, ils appartiennent aux mêmes écoles, ils sont façonnés par la classe dominante, ils sont au pouvoir, il y a une oligopole qui essaie de nous imposer une orthodoxie dominante. Et là, on est vraiment dans un modèle où c'est l'idéologie intentionnelle qui conduit dans tous les bouts de la chaîne de l'idéologie au journal qui arriverait devant nous. Là, l'algorithme, il est obligé de faire ce petit saut qui est de passer de quelque chose de substantiel en un truc qui est procédural et qui va redevenir et qui va être réinterprété de façon substantielle par l'individu. Je ne sais pas si je suis clair, mais ce décalage-là est compliqué parce que, vous voyez, on a le débat fake news sur Facebook, l'élection de Trump, etc. Et aux États-Unis, on n'a pas en Europe, mais en Europe, aux États-Unis, il y a une petite éditorialisation de la presse qui était autrefois faite à la main sur Facebook. Puis il y a des gens qui ont protesté, ont dit non, mais c'est mal fait, ils censurent des informations, ils privilégient Hillary Clinton. Donc Facebook a dit oh, non, on va arrêter de le faire à la main avec des humains, on va mettre un algorithme. Puis ils ont mis des algorithmes, puis l'algorithme, lui, il a des procédures, donc il n'a plus d'intention, mais il a des procédures. Et les procédures qu'il a mis en place, ça fait apparaître plein de fake news, c'était pire. Voilà. Et alors, là, on est dans une question qui est typique du débat que rencontrent beaucoup les gens qui fabriquent les algorithmes, c'est. Est-ce qu'il faut remettre de l'humain ou est-ce qu'il faut trouver une autre solution procédurale qui résout les problèmes qu'a fait apparaître la solution précédente. Les gens qui les fabriquent, ils ont un culte de la procédure. Et moi, j'y suis très attentif. Je pense que c'est assez intrigant et je trouve que c'est intéressant. Et leurs arguments sont forts. C'est de dire... mais alors, on voit bien d'où ça vient de tout le positivisme scientifique. C'est de dire, dès qu'on touche à la main, on met de la subjectivité, de l'intérêt. La faille, c'est l'humain. Voilà. Et donc, face à ces problèmes, la solution ne doit pas être de dire il faut mettre de meilleurs humains qui vont bien filtrer, qui vont enlever un certain nombre de choses. C'est de trouver une solution procédurale qui règle les problèmes créés par la procédure précédente. Et donc, et chez dans mon histoire que j'ai beaucoup travaillé de Google et du marché du référencement qui cherche à tricher, ça a toujours été le cas. C'est très compliqué pour l'entreprise d'expliquer que il y avait des procédures typiques qui ne marchent plus aujourd'hui avec l'algorithme, mais qu'on pouvait faire remonter des sites avec trois mots-clés, ça s'appelait Google Bombing, puis on faisait remonter des sites. Nous, en France, on avait un truc très insultant pour Nicolas Sarkozy. Je ne sais plus quelle était l'insulte, elle était assez drôle d'ailleurs. Et donc, on tapait trois mots-clés, puis c'était le site de l'Élysée qui apparaissait. Bon, alors, Google publiait des communiqués en disant « Bon, c'est vrai, on pourrait débrancher à la main, c'est facile. Hein. Il y a une erreur, voilà, on débranche à la main, c'est juste. » Mais non, on va essayer de trouver une solution algorithmique pour que ce résultat n'apparaisse plus, parce que les gens qui ont fait produire ce résultat ont eu une action stratégique qu'on peut décoder par les métadonnées, etc. Et le faire. Et c'est un débat très important parce que, mais là on rentre dans des choses compliquées, qui est au cœur du débat juridique actuellement sur la régulation des algorithmes, qu'on appelle la loyauté des algorithmes. C'est l'un des meilleurs juristes sur la question, qui s'appelle James Rimmelman. Lui, il soutient qu'il faudrait, c'est là qu'est le problème, il faut que l'entreprise respecte les procédures qu'elle a données à son algorithme. Et donc, il faut que l'entreprise lutte contre son, d'une certaine manière, on pourrait dire son inconscient, qui est d'agir à la main sur l'algorithme. Hein. Et donc, ce que doit vérifier le régulateur, c'est précisément que ces agissements à la main ne soient pas trop nombreux, parce qu'ils viendraient déformer le principe qui est enfermé dans la procédure. Hein. Et alors, bon, c'est un argument subtil, c'est un argument très difficile à mettre en place pour faire une politique publique de vérification, mais on sent bien que c'est au cœur de l'affaire, c'est-à-dire de demander à Google. De retenir ces intérêts qui peuvent être circonstanciés, économiques, de soutenir tel ou tel site, en trouvant une manière à la main de jouer sur les calculs, qui est un soupçon, évidemment, alors j'ai été très positif avec les algorithmes ce soir, mais qui est un soupçon qu'on peut avoir pour tous les algorithmes, c'est-à-dire qui nous dit que les livres vendus par Amazon, Amazon est un bon cas aussi, les livres. Je vous recommande des livres qui ont été lus ou achetés par des gens qui ont lu les mêmes livres que vous, qui nous dit qu'il n'y a pas un éditeur qui a fourgué un camion de livres à placer et que Amazon les met dans la recommandation alors qu'ils n'ont pas du tout été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que moi. Et donc, il n'y a pas de loyauté parce que la promesse faite par la procédure à l'utilisateur n'est pas respecté par l'entreprise qui a mis un patch pour essayer de déroger aux propres aux règles qu'elle a fixées comme étant ce ton algorithme. Une partie du débat sur la loyauté, il essaye de jouer ça. C'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Mais que Uber ne rajoute pas des voitures sur la carte alors qu'il n'y a pas de voiture, mais juste pour nous faire croire qu'il y a des choses qui sont tout près. Que Google ne privilégie pas ses propres services. Que quand on recommande, en fait, c'est du filtrage collaboratif très amélioré, etc. Que ce soit bien quelque chose qui soit lié aux pratiques de l'utilisateur et aux recommandations faites par les autres utilisateurs qui ont fait la même chose qu'eux. Mais pas quelque chose qui soit poussé par les industries culturelles qui veulent lancer une action promotionnelle sur cette affaire. Et peut-être pour finir sur ces histoires un peu précises, mais il y a un problème sur Facebook. Voilà, parce que l'algorithme de Facebook est maintenant en apprentissage, mais il apprend sur des règles qui sont très simples et qu'on connaît. Globalement, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Je vois le plus fréquemment dans mon fil d'actualité des informations qui ont été poussées par les gens avec lesquels j'ai beaucoup interagi. Alors, ça, c'est une règle qui plaît beaucoup aux sociologues, c'est qu'ils considèrent que ce qui est important, c'est le réseau affinitaire conversationnel des gens. Plus vous échangez, il y a un réseau de conversation dense, plus que les gens avec qui vous échangez beaucoup va apparaître centralement dans le fil d'actualité. C'est le principe de l'algorithme. Mais les marques ont débarqué dans le système. Et les marques, elles ne sont pas amies avec les gens. Elles voudraient être amies, elles ont transformé le mot marché en communauté, et puis elles disent, voilà, vous allez devenir amies avec moi. Alors elles font des jeux concours. Elles offrent un iPad, il y a 25 000 internautes qui deviennent fans de la marque pour jouer aux jeux concours, mais ils n'interagissent jamais avec la marque. Ils ne likent pas, ils ne commentent pas, etc. Du coup, ils n'apparaissent plus dans le newsfeed. Personne. Et Facebook vend aux marques la possibilité de violer les règles de la procédure de son algorithme pour apparaître dans le newsfeed des personnes. Donc Facebook a installé un modèle publicitaire à l'intérieur même de la procédure de son algorithme pour la déformer. Ce qui est, ce qui est assez problématique, et alors évidemment ce que les utilisateurs ne voient pas et ne savent pas, et qui est quand même une manière de déroger la même au principe de loyauté de l'algorithme qui est assez compliqué.
Ça, ça mène à une question très importante. Il y a le gourou du management, John Bailey, dit la question du 21e siècle, c'est dans quelle boîte noire on va pouvoir avoir confiance. Ça fait écho tout à fait à ce que tu viens de dire. Ça, c'est vrai pour les grandes boîtes comme Facebook, Amazon, que sais-je. Quid, est-ce qu'on peut avoir des effets similaires pour des boîtes qui ne sont pas nécessairement dans ces marchés, mais qui utilisent des algorithmes pour toute une série de choses est-ce qu'il y a là, je veux dire, des enseignements qu'on peut tirer pour les managers que nous sommes ici, dans des boîtes très différentes est-ce que tu as des pistes à donner, ou est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont des réponses par rapport à cela?
Moi, je trouve qu'il y a une réponse évidente, c'est que ça va arrêter d'être des boîtes noires. Il faut qu'ils soient transparents. Il n'y a aucune raison que l'algorithme de PageRank ou que l'algorithme de Facebook soit...
Hugues, d'accord, mais en même temps, tout à l'heure tu l'as dit, Dominique, c'est que pour que certains algorithmes fonctionnent, il faut précisément qu'ils soient cachés. Je ne sais pas si c'est un argument valable.
Alors, il y a un débat compliqué. Moi, là, je vous donne ma position à moi. C'est vraiment mon expérience à moi. Moi, je suis plutôt militant, critique, etc. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur l'algorithme de Google, que j'appelle PageRank, mais qui est un Google Score. Il y a plein de choses dans le PageRank aujourd'hui, hein, avec l'idée que ça doit être transparent, c'est un scandale, etc. Alors, c'était un effet de fascination pour son objet. Maintenant, je comprends vraiment très profondément pourquoi Google ne peut pas rendre public. Alors, c'est pas le PageRank qui est enseigné en première année d'informatique et bouquin dessus, voilà. Mais il y a un brevet, il est public, etc. Mais c'est toute la sauce qui compose l'algorithme. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des variables métiers. C'est pas tellement l'algorithme en lui-même, souvent c'est des trucs qui existent, voilà. Mais c'est la manière qu'on a composé cette salade avec différents algorithmes et données d'entrée, etc. Pourquoi Google ne peut pas le rendre public? Parce que s'il le rendait, le web serait vraiment, et là pour le coup Google a raison, hein, Google est tort sur point dessus, le web serait tout pourri, hein, le classement, parce que les forces économiques qui veulent tricher avec l'algorithme sont si puissantes, que dès qu'elles connaissent le système, elles vont évidemment arriver à tweaker le système. Alors, c'était beaucoup le cas, jusqu'à il y a 2-3 ans. Hein, et notamment, une des réformes du PageRank, qui est Panda à Pingouin, qui fait que là, ils sont passés sur un autre système dans lequel ils arrivent à lutter assez efficacement contre les fermes, les annuaires, les fermes de liens, les fermes de contenu, enfin tous les systèmes de trucage. Mais on ne se rend pas compte, et c'est ça le paradoxe. Je suis complètement naïf, mais moi c'est vraiment l'impression que j'ai ressenti de cette enquête, à quel point la situation paradoxale, c'est que je vais le dire dans une formule, les internautes, enfin surtout les webmasters des sites marchands, ne sont pas à la hauteur des vertus morales du PageRank. Le PageRank qui défend l'autorité, il veut qu'il y ait de la reconnaissance dans les liens, c'est ça dont il a besoin pour faire son calcul. Et tous ces millions, centaines de milliers d'internautes qui cherchent à tricher avec les liens pour leur propre profit et du coup déformer la structure globale des résultats, ils pourrissent le web. Ils pourrissent le web. Alors là, je me mets complètement du côté de l'algorithme. Je suis pas naïf et je sais que, et ça permettra de revenir sur ta question. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dans le fait du secret. Alors, il y a d'autres solutions que lever tous les secrets. Puis souvent, maintenant, connaître les secrets, ça ne dit pas vraiment la réalité du truc, qui est de faire des audits, faire de la rétro-ingénierie, faire de la critique, donner des pouvoirs, des instruments de sanction au pouvoir public, au régulateur, à la Commission européenne, pour arriver à regarder tout ça, qui ne demande pas nécessairement d'avoir un accès complet à ces algorithmes, parce qu'ils peuvent de temps... Et ça, c'est la loi de Strouhern, hein, c'est-à-dire que dès qu'on rend public la manière dont ça calcule, les gens agissent en fonction du calculateur. Donc on met en place des boucles. Il y a des endroits où c'est possible de le faire, mais il y a des endroits où si on le fait, effectivement, on prend des risques de défaire l'efficacité même du calculateur. Et ça, c'est vraiment des choses un peu compliquées.
Mais est-ce que, finalement, je comprends très bien le souci que vous avez de défendre la qualité de la procédure par rapport à tout ce qui pourrait la pervertir. Mais est-ce que ce n'est pas aussi... En soi, ce ranking n'est pas aussi une terrible dictature, finalement.
Oui, alors
en soi.
Oui.
Et qui déforme aussi, de toute manière, la manière dont nous pensons. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème?
Alors, moi, c'est un
même peu... si la procédure est parfaitement respectée, c'est un peu. c'est un peu désastreux.
Vous avez raison de le dire. Moi, j'ai pas exprimé. Moi, je suis très présent dans le livre. C'est que, moi, d'une certaine manière, ce que j'essaie de défendre, c'est de dire. Il faut faire une. Enfin, d'essayer de proposer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une autre. Toutes les critiques sont bonnes. Mais il y a une critique, manipulation, etc., etc., qui est assez publique, en fait. Elle est assez partagée. Elle a un peu de sens commun, en fait. Mais elle est importante. Mais finalement, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à travers une critique de la procédure en elle-même, on peut faire une sorte de critique des transformations de nos sociétés qui peut être plus forte. Et si on graisse sur le PageRank de Google, qu'est-ce qui fait le PageRank? Et là, je pense que c'est une sorte de critique sociologique, enfin normative qui était assez présente. C'est qu'il installe la méritocratie, il donne à un modèle méritocratique des capacités d'expansion absolument explosives. Et donc, il nous fait entrer à l'endroit où la méritocratie est plutôt une bonne valeur, on sera prêt à défendre. Il nous fait entrer dans une société où les excellents sont excellents, ils sont sur la première page, et toutes les autres pages sont effacées et invisibilisées. Donc, ils travaillent exactement à l'endroit de nos sociétés où la distribution des inégalités n'est plus en décile, mais elle est au centile. Elle vient donner aux excellents la première page, et elle fait disparaître tous les autres. C'est pour ça qu'ils sont furieux, qu'ils essaient de tricher avec les liens, etc. On les comprend. Hein, voilà. Parce que l'effet de la première page est si fort qui produit ces nouveaux marchés de l'excellence. Et ça, il y a beaucoup de travaux de sociologie, Piketty sur Piketty Nambet sur la fiscalité. On le voit dans le monde de l'art aussi, c'est fascinant. L'art contemporain, on a cinq valeurs qui sont montées voilà, tout en haut, puis tout le reste est complètement... Voilà. Donc on crée des distributions avec des lois de puissance extrêmement fortes dans lesquelles on accélère un principe qui, en plus, fonde sa légitimité du fait que c'est les autres qui ont voté. Vous avez tous voté pour lui. Hein, et donc, les méritants doivent aux autres leur mérite, mais évidemment, ne le disent pas. Et on produit des systèmes d'inégalité très forts. Alors, moi, je pense que le numérique exacerbe le déploiement de ces valeurs qui du coup créent des effets pervers assez multiples, celui des effets de distribution des inégalités sur la méritocratie à la Google, et puis l'autre, ça me permet de renvoyer, j'ai peu dit tout à l'heure, mais il y a bien un réglage intentionnel de ces nouvelles techniques d'apprentissage, etc., c'est que ça inclut de l'utilité. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la seule valeur, c'est l'utilité. Et on voit bien d'ailleurs que c'est comme ça que s'établit la confiance. Hein. Donc, c'est ça le paradoxe de ces systèmes, parce qu'on en discutait là, tout à l'heure. C'est toujours, on est là à se dire oh, c'est scandaleux, c'est problématique, ça pourrait devenir totalitaire, etc. Mais pourquoi on reste dessus? Il y a d'autres moteurs de recherche. Hein. Ça reste parce qu'on fait un arbitrage, utilité et risque qu'on prend, avec ma liberté, avec mes données personnelles, etc. Mais jusqu'à quel point on ne pourrait pas aller faire un... DuckDuckGo est un moteur de recherche, ou Quant sont des moteurs de recherche qui ne prélèvent pas de données sur la vie privée, ils sont moins bons que Google, mais ils rendent le service. Ce qu'on attend, c'est l'utilité. Et du coup, ce qui est le moteur économique de ces systèmes, hein, donc j'ai tout à l'heure été très positif avec l'idée que la procédure est plus vertueuse que ne le sont les internautes, mais elle est vertueuse pour une seule raison, qui est l'obsession de la Silicon Valley. Ça, je trouve, nous, en Europe, on comprend mal ça. C'est-à-dire que qui est l'expérience utilisateur. Hein, bon, vous connaissez ça.
Ça appelle un monopole. Je veux dire, le grand problème de ces systèmes-là, il est là. Aujourd'hui, si je veux développer une plateforme de covoiturage gratuite parce que je crois à l'écologie, machin, je ne peux pas parce que j'ai un Blablacar qui s'impose complètement, et ce phénomène expérientiel fait que moi, entrepreneur, je n'ai plus de place et j'ai plus de possibilité de percer parce que ce phénomène d'accentuation tel que vous l'avez exprimé très bien fait que je ne peux absolument pas être compétitif.
Oui,
ça tue l'économie de marché.
C'est tout le problème. Alors, il faut quand même être... Mais moi, je ne suis pas économiste et je pense que vous savez mieux, donc je vous laisse discuter. Mais moi, je suis quand même... Bon, winner take all, donc bon, mais ça marche très bien pour Google, hein, même si on voit bien qu'il n'a pas pris tout. Hein, c'est d'ailleurs son argument, alors c'est un argument évidemment d'une hypocrisie extrême, hein, mais de dire regardez, on n'est pas du tout en situation de monopole. Puis si Google pouvait financer Bing et 2-3 moteurs juste pour faire croire à la Commission européenne qu'ils sont pas en situation de monopole, il le ferait. Mais ça ne marche pas pour tous les services du web. Hein. Et donc là, la question du régulateur, la question, etc., on peut créer un service de covoiturage. Nous, en France, il y a voiture privée qui est en train de prendre sur Blablacar. Hein. Et cette tendance qui est très présentiste, c'est-à-dire celui qui est actuellement dominant, il est indétrônable. Moi, c'est peut-être parce que je suis vieux dans l'histoire de suivre les gens du web. Moi, des gens indéboulonnables, j'en ai vu plein. Hein. Friendster, pour les réseaux sociaux, hein. Friendster, MySpace, etc. MySpace, c'est quand même un site qui était central. Alors, on ne pouvait pas parler de musique sans parler de MySpace. Il y avait le monopole absolu sur la musique. En 5 mois, ça a été moins, ce truc. Hein. Et aujourd'hui, je le dis pour Facebook, hein, aujourd'hui, Facebook est dominant parce qu'il est mondial. Mais les gamins, ils sont en train de quitter massivement Facebook. Alors, ils quittent Facebook pour Instagram, donc c'est toujours Facebook, mais ils quittent aussi pour Snapchat, ils quittent aussi pour WhatsApp. L'idée qu'il y a une stickiness comme ça, qu'il y a une fidélité, n'est pas toujours vérifiée. Simplement, évidemment, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de bluff dans l'investissement pour faire ces trucs que ne font que la Silicon Valley. Parce que c'est aussi un truc, moi, je ne suis pas économiste, alors ça me fascine toujours, j'ai des questions naïves, moi. C'est comment fonctionnent les trucs à la Blablacar ? Ou pas à la Blablacar, à la Uber. C'est-à-dire, ça brûle des milliards, des millions, tous les mois. C'est des trucs, ça ne fait que brûler de l'argent. Et les ventures continuent à mettre de l'argent. Ça brûle en marketing pour obtenir l'effet de réseau de l'Intexol, mais ça ne gagne pas un centime. Et quand même, beaucoup de ces entreprises sont quand même, de ces fameuses licornes, sont quand même des entreprises qui font pas beaucoup de bénéfices, ou qui la plupart du temps ne font pas du tout, mais simplement qui ont cette audace de faire du marketing pour aller chercher du réseau, ce que nous, évidemment, en Europe, on ne sait pas faire.
Est-ce que vous confirmez que le nombre de ces winner take all est de plus en plus petit et leur durée de vie est de plus en plus grand par rapport à ce que l'on
pense? Non, ça demandait à des économistes, ça, c'est pas moi, je suis sûr, pensez ça, qu'ils sont de plus en plus petits.
Il y en a de moins en moins, et qui
c'est de plus en plus concentré.
Les inégalités,
ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène, enfin, genre avec Google, mais probablement peut-être Uber, d'autres. Il se fait que pour la première fois, au niveau d'une entreprise, la taille, d'abord il n'y a pas de limite géographique, c'est assez nouveau quand même, mais c'est que la taille rend, enfin, le winner stay cool, c'est vraiment propre à l'économie numérique. Parce que dans l'acier, on pouvait dire qu'il y avait d'autres problèmes qui se posent. Mais dans le numérique, plus il y a de participants, plus on est meilleur, évidemment. Plus on est utile, de toute manière. Et ça n'a pas de raison de s'arrêter. Il n'y a jamais l'alternative de Bing qui serait super financé ou quoi. Oui, enfin, il faudrait que Google soit très mauvais pendant 10 ans pour que les gars puissent... Donc, il n'y a pas tellement de
pas si sûr. Je pense que ce que Dominique vient de dire avec MySpace, etc., montre que c'est pas aussi.
On n'était pas encore, c'était encore. Ouais, hein.
C'était avant.
Avant
hein. Non, non, c'était avant. Pas avant. Non, non, mais. Oui. Non, je pense que c'est deux économies différentes, hein, oui. Les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que, parce que c'est très lié à l'idée qu'on crée de l'adhésion, de la stickiness utilisateur qui fait qu'on ne peut pas s'en défaire. On l'a beaucoup dit pour les réseaux sociaux et on sait que ce n'est pas vrai. Hein. On sait que ce n'est pas parce que j'ai mis toute ma galerie de photos sur Flickr que voilà, Flickr s'effondre. Hein, il a été voilà. Donc la plupart de ces sites doivent être hyper innovants, constamment, pour se renouveler. Et dès qu'il y a une toute petite faille dans l'innovation, ils ouvrent la place à un autre. On est quand même là dans des modes concurrentiels sur ces histoires de réseaux sociaux. Et je le dis, parce que moi, je travaille beaucoup sur Facebook, là, on fait des enquêtes, mais là, sur les usages. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, je pense que c'est pareil qu'en France. Facebook est en train de vivre un vrai drame de marché, en fait, le souterrain qui est en train de se passer. Mm-hmm. C'est que maintenant, c'est vraiment un site de vieux. Mm-hmm. Hein, c'est vraiment... Et bon, ça va pour le marché publicitaire, ça va pour toute une série de fonctionnalités, mais toute la dynamique de la jeunesse n'est plus du tout sur Facebook. Mm-hmm.
Juste pour l'anecdote, j'ai réussi à monter un site de covoiturage qui est gratuit, qui a 30% de part de marché sur certains marchés par rapport à Blablacar.
Dans deux villages
Non, en Espagne.
Comment s'appelle-t-il?
Amovens. Pas très connu ici, mais voilà, ça c'était pour l'anecdote. Mais ma question c'était, Est-ce que le problème, c'est un des problèmes, pardon, c'est que là, on prend beaucoup comme paradigme Google, comme, comme moteur de recherche en plus, où on a quand même au moins une première page de résultats avec 10 choix parmi lesquels choisir, disons. Mais de plus en plus, la prédiction, la capacité de prescription pardon, de Google ou autre, c'est quand même des mécanismes de plus en plus inconscients où, je ne sais plus si le bouton de Google, j'ai de la chance, existe encore ou pas, mais c'est un peu un espèce de. Je sais pas, j'imagine un modèle de, un peu j'ai de la chance mais sans qu'on s'en rende compte, ou même Google anticipe même la question qu'on va lui poser, et du coup là tout ce recul qui serait quand même positif d'avoir par rapport à ce système de prescription et auquel vous invitiez avant la pause, on perd en fait complètement cette distance et on a juste un choix qui a été fait pour nous même avant qu'on pose une question.
Bon, on a eu un peu cette discussion. Je pense sur le fond, vous avez raison, c'est ce dont rêvent les gens de Google depuis toujours. Hein, le jet de la chance étant le simplement là, en sociologue des usages, moi je suis plus optimiste. Hein, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus variés, aussi dans leur comportement numérique, il y a des effets d'apprentissage de plus en plus variés. Et il y a un risque qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le risque toujours d'être un peu paternaliste avec les autres. Hein. Alors ça, moi je me méfie toujours de moi-même là-dessus. C'est-à-dire, on se dit, moi ça va, mais les autres. Et c'est typique de beaucoup des raisonnements sur Internet, c'est-à-dire, non, moi je fais attention, mais les autres sont enfermés. Hein. Alors évidemment, si tout le monde raisonne comme ça, personne n'est enfermé. Hein. C'est ce qu'on appelle l'effet de troisième personne. Voilà. Et il y a toujours un tout petit peu ce risque. Alors moi, je pense que les sociétés avec des niveaux différents, avec des pathologies de la prescription qui peuvent être chez certains, mais chez nous-mêmes aussi, si on regardait bien, il y a des moments où on a envie d'être complètement guidé, et on clique tout de suite et on sait, puis il y a des moments où on... Donc c'est plus une sorte d'éducation à ces moments réflexifs et à ce regard sur l'usage qui est important. Et moi, je voulais dire une deuxième chose qui serait plus au fond de l'argument qui rejoindrait les débats qu'on a eus, mais que je lance comme ça, puis comme vous allez discuter avec Antoinette, ce sera... Là, je suis très en phase avec Antoinette sur cette question, qui est une question un peu compliquée sur comment qualifier la forme de pouvoir, parce qu'on sent que ce dont on parle là, c'est qu'il y a une nouvelle entité qui exerce sur nous. Et quelle est la nature de son pouvoir? Il y a les éléments économiques et tout ça, mais moi je ne suis pas très compétent quand même sur ce rayon, mais d'essayer de le qualifier là, presque philosophiquement. Et il me semble qu'on rate un petit peu un truc à reproduire des mécanismes de domination, d'aliénation qui viennent justement de Chomsky et de Megelmas. Hein, c'est-à-dire qu'on a construit une critique de la domination sur le monde de l'information, de la prescription, etc., dans un univers très différent, dont sans doute 1984 de George Orwell est l'exemple, mais dans lequel le pouvoir essaye d'agir sur les sujets, hein, et d'agir pour le cadrer, pour le limiter, pour le contenir, pour le cadenasser, hein, dans 1984, pour faire disparaître l'orgasme. Hein. Voilà. Y a cette idée de contrôle complet des pensées du sujet. Hein. Et il me semble que c'est pas du tout ce qui se passe. Voilà. Il me semble que c'est une mauvaise description de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aliénation, contrainte, etc. Mais cette idée-là ne marche pas. Alors, peut-être pour faire un instant de philosophie, voilà. chez Foucault, et moi je trouve, si on relit bien Michel Foucault, alors c'est compliqué parce que moi je ne suis pas foucaultien spécial, mais du coup j'ai beaucoup relu Foucault. Bon, il y a plein de Foucault, mais on peut en séparer deux. Il y a le Foucault de surveiller et punir. Et le Foucault de surveiller et punir, il ressemble exactement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est l'idée que les grands dispositifs, hein, sont des dispositifs qui visent la subjectivité, mais vraiment pour la cadrer, la contenir, la cadenasser, la limiter, la tenir. On fabrique le sujet dans les raies même du contrôle et du pouvoir et de la surveillance. Et puis, il y a un Foucault très étrange, et ce que je trouve que les Foucauldiens lisent mal, qui est un Foucault qui, entre 78 et 80, va faire deux cours au Collège de France, qui sont absolument étonnants, qui n'ont lu aucun livre, qui s'appelle « Sécurité, territoire et population », puis « Naissance de la biopolitique ». « Naissance de la biopolitique », c'est un texte sidérant, hein, sidérant, entièrement consacré au néolibéralisme américain, au néolibéralisme, pas américain, enfin non, allemand et américain. Il écrit en 79, c'est l'époque de Thatcher, donc on est vraiment très très loin de toute la réflexion actuelle sur la critique du néolibéralisme, etc. Et Foucault ne porte jamais une seule critique contre ce truc, il trouve ça intéressant. Alors, intéressant, ça agite son esprit, et ça agite vraiment beaucoup. Et il en fait une lecture qui est très subtil, hein, très très subtil, et on voit très bien comment en fait Foucault a pu être dessiné par le néolibéralisme de Milton Friedman, de Hayek, hein, c'est Hayek sa grande référence, en lien avec les utilitaristes anglais. Ce qui l'intéresse, c'est que c'est un pouvoir qui n'agit pas sur les sujets, mais qui agit sur l'environnement. Hein, et il va faire toute une construction très sophistiquée pour reprendre la naissance de l'idée du marché, la naissance de la statistique, ce qu'il va appeler la biopolitique, etc. La biopolitique, c'est on n'agit pas sur les sujets. On agit sur l'environnement et on produit des oscillations dans lesquelles il y a des phénomènes moyens qui font que la société se tient et est contrôlée par la gouvernementalité, mais ce n'est pas une gouvernementalité de l'asile, de la prison, de toutes les institutions d'enfermement qu'il avait étudiées précédemment. C'est une gouvernementalité par la statistique, par le prix, par le marché, c'est-à-dire c'est contrôler l'environnement. Et ce dispositif, qui est typiquement néolibéral, jouer sur les règles du jeu, pas sur les joueurs, c'est typiquement les formes même du libéralisme, plus tard qualifié de néo. Moi, je pense que c'est ce que font ces plateformes. Et c'est pour ça qu'on m'ennuie avec ce débat sur le pouvoir. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir dire qu'elles viennent nous manipuler personnellement. Voilà. La réalité de nos pratiques, c'est qu'on a le choix, c'est qu'on peut faire autre chose, c'est que du coup, on va dire que c'est les autres parce que nous, ça va. Bon, on est toujours dans cette situation un peu compliquée, c'est qu'on est pris dans des ambivalences, c'est qu'elles nous rendent des services utiles. Mais en même temps, on sent bien que cette utilité, elle guide quelque chose. Et moi, je pense que ce qu'elles guident, c'est justement qu'elles ont façonné un environnement dans lequel elles disent à chacun, vous allez être libre. C'est des dispositifs libérogènes. En fait, ils fonctionnent parce qu'ils incitent les gens à se penser comme étant autonomes dans leur choix et libres. Et moi, je pense que tout ce que fabrique Facebook, Google, etc., c'est d'avoir des individus qui font plus de choses possibles. Ils cherchent à intensifier chez chacun le souhait de faire plein de choses. Parce que ce souhait de faire plein de choses, eux, les plateformes redonnent une utilité aux actions des individus, et cette utilité, elle sert sur le marché publicitaire à vendre des choses, etc. comme ça. Et donc, leur idée, c'est pas de faire disparaître l'orgasme, parce que dans 1984, c'est au contraire de nous exciter. Hein, c'est au contraire de nous exciter. Cette excitation est leur modèle économique. Hein. Elle est leur modèle économique, mais du coup, dans un environnement qui est contraint. Et sans doute que ce qu'on ne sait pas voir et ne sait pas critiquer, c'est que ce sentiment de choix, d'autonomie, et puis cette. Aussi ces résistances constantes qu'on ne cesse d'opposer, oh, j'ai pas tout vu, il m'a caché une information, etc. Enfin, ce sentiment comme ça que notre liberté pourrait être un tout petit peu aliénée par quelques contraintes qui sont venues, c'est exactement ce que produisent ces plateformes. Et ils nous mettent dans ce dispositif, du coup, qui est difficile à critiquer parce qu'il produit ça. Mais Antoinette verra beaucoup mieux que moi. Voilà.
J'ai pas de problème avec ça, mais j'ai juste une question, Laurent. Je suis entièrement d'accord avec votre analyse, mais comme tout libéralisme, il y a un moment, un besoin d'un minimum de régulation. Et cette régulation-là, pour moi, est dans la possession des données. Aujourd'hui, on a besoin de l'eau pour vivre, on a besoin de l'air pour vivre, et la donnée est devenue une richesse presque aussi précieuse que ça. Et donc, le monopolisme dont je parlais tout à l'heure vient de la concentration des données chez quelques-uns. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre une forme de régulation où monsieur puisse bénéficier d'un certain nombre de données que Blablacar s'approprie aujourd'hui, pour qu'il puisse mieux développer son système. Ne devrait-il pas, quelque part, faire de cette denrée précieuse, donc la donnée, quelque chose de plus partagé comme l'eau, l'air et le reste?
Non, mais alors vous avez entièrement raison, la donnée est le cœur du système. Hein, et dans la différence qu'on faisait tout à l'heure dans la discussion entre Google et Facebook, hein, c'est qu'il me semble que. Ce qui est au cœur du monopole de Google, c'est que les mécanismes d'apprentissage, ça fait 15 ans qu'on leur explique lien 1, lien 2, lien 3, lien 4 pour tel mot-clé, donc ils révisent son truc. Donc en fait, le capital de savoir-faire accumulé par le traitement, l'apprentissage de ces données est ce qu'un nouvel entrant n'aura jamais. Alors qu'un nouvel entrant en réseau social, il n'a pas besoin de ce capital. Franchement, tous les trucs sur Uber, c'est vrai que c'était Blablacar auquel je pensais, mais tous les trucs, on ne peut pas faire des systèmes de covoiturage, les algorithmes d'Uber, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Franchement, ça prend une semaine, des bons codeurs. Donc, c'est pas là qu'est l'enjeu. Alors, l'enjeu, c'est qu'après, ils gardent des données, et qu'il y a toute une série de débats de régulation très, très compliqués sur la donnée dont je ne suis pas... Voilà. Parce qu'il y a plein d'hypothèses possibles, mais qui sont très compliqués à mettre en place. Et nous, en France, on a eu un rapport Colin et Colin qui était l'idée que, puisque c'est la nouvelle donnée, il faut établir la fiscalité sur le nombre de kilooctets stockés par ces entreprises, ce qui était assez intéressant. Mais bon, assez, assez difficile à mettre en place. Hein. Et puis, il y a un autre motif qui est là un débat juridico-philosophique extrêmement tortueux, qui est de dire qu'il faut rendre les données aux gens. Hein. Et donc, dans le monde du web, c'est un projet qui s'appelle VRM, Vendor Relationship Management, qui existe depuis 10 ans. Hein. Même, oui, ça fait très longtemps qu'on entend parler. Et alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'une idée sur le web qui existe depuis 10 ans et qui n'a pas marché, c'est une mauvaise idée. Hein. Mais on voit bien la préoccupation, elle est complètement légitime parce qu'elle vient répondre à votre préoccupation. Il faudrait que, puisque la manière dont ils produisent de la valeur, c'est précisément l'exploitation de nos données, il faudrait qu'on ait un rapport de négociation contractuelle avec eux sur nos propres données. Voilà. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème qu'on a évoqué sur le système complexe, c'est qu'on voit bien que c'est des gens qui sont peu attentifs au système complexe, au tout et à la partie. C'est que la donnée, elle vaut quand elle est dans le tout, mais pour la partie, elle vaut strictement rien. Donc, à titre individuel, tous les modèles économiques qui ont été développés, ben, vos données personnelles de Facebook, ça vaut 0,02 centimes, hein, ça ne vaut pas grand-chose. Et puis, un problème que soulèvent les juristes en Europe, beaucoup, c'est qu'évidemment, on entretient, alors c'est un problème vraiment de philosophie du droit, là, c'est, et d'opposition qu'il ne faut pas caricaturer, mais continentale quand même sur ces questions. C'est que si la donnée devient un bien personnel, si les données personnelles deviennent un bien, cessible par contrat, on entre effectivement dans l'idée d'une marchandisation des données personnelles. Et du coup, tout le droit de la vie privée qui est construit sur la dignité de la personne humaine résiste absolument à cette idée qu'on puisse laisser les gens, parce qu'après tout, à partir de ce moment-là, on peut très bien vendre sa feuille de sécurité sociale au plus offrant à n'importe qui, etc. On peut très bien transformer en un bien cessible des choses que notre droit. Alors, le droit de la vie privée n'est pas le droit des données personnelles, c'est deux segments à côté, mais ils sont jamais très très loin. Et donc, les gens de la vie privée viennent dire aux gens des données personnelles non, attention, ne faites pas de contrat avec les données personnelles parce que c'est ça qui va arriver. Et puis après, il y a un dernier élément là-dessus qui est que moi je pense qu'il y a en revanche des dispositifs qui sont très utiles, qui sont des dispositifs critiques. Avec l'aide des régulateurs, c'est de demander à ce qu'on puisse récupérer nos données. On peut le faire maintenant de mieux en mieux, mais c'est quand même pas très propre, la manière dont c'est fait. Et que le droit de restitution des données personnelles, et donc de transport, alors on appelle ça, j'ai oublié le terme, mais c'est l'idée qu'on puisse migrer ces données d'un site à un autre. Je quitte Facebook. Facebook me donne mes données et elles sont en XML, RDFisé, etc. Je les passe sur un autre site et puis je me retrouve dans mon environnement avec mes photos, mes amis, mes contacts, mes conversations. Parce que ce que j'ai donné à Facebook m'appartient et donc restitué, je peux les migrer sur un autre site. Dans les débats européens, c'est une idée qui est fortement poussée. Je crois qu'elles doivent être dans la renouvellement directive, etc.
Je peux ajouter quelque chose parce que ça vient là-dedans. En fait, il y a deux choses. Il faut bien se rendre compte que la co-autrice est libertaire. Et donc, ça veut dire que ça ne les intéresse pas de vous gouverner. Par contre, vous avez intérêt à vous inquiéter de la co-autrice parce que c'est la NSA. Et là, leur truc, ils cherchent à vous gouverner. C'est-à-dire que, moi qui regarde un peu les deux, je suis bien plus inquiet quand notre administration garde des données et vous ne savez pas ce qu'elle en fait, que quand d'une entreprise libertaire qui essaye en fait de vous apporter quelque chose et travaille. Donc je pense que la question qu'on se pose, elle est juste, mais elle est beaucoup plus inquiétante dans nos organisations, où je pense que non. Enfin, je crois que pour l'instant, pour l'administration, c'est une catastrophe quand même. Je veux dire, c'est un moyen de gérer le pouvoir, c'est politique. Mais c'est avec une volonté de vous gérer. La NSA, c'est vous proposer de vous gérer. Alors tout le monde a peur de Google. Non, vous avez peur de ce que vous mettez à la civile sociale, de vous rentrer dans votre déclaration d'impôt. Et ça, c'est
le problème, c'est que l'affaire Snowden a montré que la côte ouest était très en manche avec la côte est. Donc ça, c'est que mon héros pour mon histoire du PageRank, vous savez, vous connaissez sans doute pas, mais la personne qui parle publiquement du moteur de recherche, enfin de l'algorithme. S'appelle Matt Cutts, c'est que Matt Cutts a quitté Google pour aller travailler où ? à la NSA.
Oui, je suis d'accord.
Il y a quand même
donc,
des moments.
Mais donc, ça veut dire que j'ai pas de ça, ça veut dire qu'ils transmettent des données. Mais donc, les données, c'est quand la NSA la manipule pour les utiliser. Les données, c'est pas. Enfin, je veux dire, la mentalité est vraiment tout à fait différente.
Oui, c'est vrai.
Enfin, il faut vraiment regarder dans. Je veux dire, il y a des excès partout. Et je suis certain qu'il y en a dans tous les sens. Mais les excès dans un système, pour moi, sont dirigés vers ces excès-là. Tandis que dans l'autre système, il y a un équilibre qui essaie de se faire.
Mais on parle de deux types de données, me semble-t-il. Enfin, c'est toujours les mêmes. C'est la donnée étiquetée, et qui, elle, c'est protection de la vie privée, hein, sans savoir que j'ai une chemise bleue plutôt que verte, etc., que mon nom est comme ça. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas tellement ça qui est critique. Ce sont les données, simplement, qui permettent d'être prédictifs. Les données sans étiquette. C'est ça la richesse de Google, c'est pas de savoir qu'il y a toute une série de gens avec leur nom, leur adresse, le nom de leur chien. Je suis d'accord, ça c'est la NSA. Mais la qualité de données, savoir quels sont les flux de déplacement dans Bruxelles ou à San Francisco à tel moment, par tel temps, telle pluie, etc. Ça, il n'y a pas d'étiquette, hein, c'est
donc ça
n'a pas de valeur en soi. Mais comme vous dites, c'est ensemble. C'est là qu'est la valeur.
C'est pas un problème de protection des données personnelles. Moi, c'est pas ça mon problème.
Non,
problème, c'est donc l'intrusion dans la compétition entre entreprises. C'est de ça qu'on parle. Je fais un parallèle avec le marché de l'énergie. On a introduit la compétition dans le marché de l'énergie, et pour faire ça, on a dû séparer les réseaux de distribution d'énergie. Même chose au niveau de la télécom, parce que tout exploitant doit pouvoir exploiter ça pour pouvoir apporter son service. Dans beaucoup d'économies de partage, l'équivalent du réseau électrique, c'est les données. C'est-à-dire que je devrais pouvoir disposer des données de base, comme dit monsieur, pour pouvoir développer et utiliser mon application.
Ça, c'est tout ce qui est poussé par l'open data. Hein. C'est effectivement de dire, alors ce serait des données du type 2 mentionnées tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que les entreprises et l'administration les rendent publiques pour qu'elles soient effectivement le minerai nécessaire au lancement d'un autre service dans lequel il n'y a pas de données
personnelles.
Les entreprises vont résister en disant que c'est leur capital.
C'est pas le réseau, c'est l'infrastructure.
Oui, Giorgio et Christophe, je pense, vous voulez aussi. Moi, j'avais une question sur la machine morale. Je suis très intéressé par l'approche juridique qui va inévitablement arriver, et vous avez donné une réponse. Je crois avoir compris qu'effectivement, si une société va essayer d'altérer son algorithme, il y a là une intention qui vient changer la procédure, et dans l'approche, surtout qu'il y a aux États-Unis, cette société pourrait être punie ou récompensée en fonction de cette intention. Mettons-nous en France, dans 10 ans, à Paris, il y a une Google Car qui rentre dans un bus SNCF. Chacun étant géré par son algorithme. Un avocat des algorithmes va devoir venir, il y aura deux avocats des algorithmes qui vont devoir intervenir. Alors, est-ce que celui qui va donner de la décision pour moins de procédures à son algorithme, est-ce qu'on va lui donner raison ou est-ce qu'on va lui donner tort? Vous avez réfléchi à ça.
Non, ça fait réfléchir beaucoup de gens. Mais dites-moi, moi, c'est un débat qui monte beaucoup. Moi, c'est peut-être mon côté sociologue là. C'est-à-dire, moi, je prends les problèmes quand ils existent vraiment. Là, je pense qu'on invente des problèmes.
Vous avez. Oui. Tesla a existé aussi, puisqu'il y a déjà eu deux.
Oui, oui. Oui.
Mais les juristes ont déjà trouvé. Hein. C'est reproduit depuis 10 ans, dédommagement. Il n'y a pas de responsable. C'est dédommagement assurantiel.
Une idée intéressante que j'ai vue chez les collègues à la commission où je travaille, c'est de s'inspirer à la loi sur les animaux. C'est-à-dire, si vous pouvez prouver s'il y a un accident avec votre chien, vous avez une assurance responsabilité civile, si vous pouvez prouver que votre Doberman a été entraîné, que vous avez fait des cours pour gérer votre Doberman et que malgré tout votre Doberman mord quelqu'un, vous allez devoir payer des dédommagements, mais beaucoup moins que si vous ne pouvez pas le prouver. Et donc, je sais que les collègues travaillent sur ça. C'est la société qui va pouvoir prouver qu'elle a essayé d'entraîner son algorithme à ne pas blesser les gens si elle fait conduire une voiture. Mais mes enfants m'ont montré des petits jeux sur Internet qui sont très gays. Vous avez une voiture avec 5 personnes à bord, et il y a une petite vieille qui traverse. Est-ce que la voiture va percuter la petite vieille ou essayer de sauver les cinq enfants. Bon, il faut donner une décision. Ensuite, ah oui, mais la petite vieille, elle était mauvaise. Ah oui, mais parmi les enfants, il y avait trois malades. Et on rentre dans des jeux qui deviennent des questions de mort. Ahurissante. Et s'amuse avec ça. Et moi, je dis, chaque fois que vous donnez une réponse, vous donnez la réponse. Non, non, c'est toi qui joues ça. Vous donnez une réponse à Google ou à la société qui fait ça et qui est en train d'essayer, d'essayer. Moi, je suis sûr que derrière ces petits jeux qu'il y a sur Facebook, il y a des gens qui essayent de mettre en place des modèles. Excusez-moi, mais
c'est un débat intéressant. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pas se poser. Enfin, non, c'est vrai que la question est déjà un peu actuelle, mais il y a Andrew Ng. Andrew Ng, c'est l'ancien Google X, intelligence artificielle. C'est beaucoup plus influent sur les questions d'intelligence artificielle que Kurzweil et tous les gens de la, etc. Et qui est passé chez Alibaba, là, qui est vraiment un décador du machine learning. Et il a eu cette phrase vraiment, je trouve parfaite, hein, à propos de, alors vous savez, tous les débats intelligence artificielle, automatisme, intelligence, conscience, etc. Il a dit, je me poserai la question de l'automate tueur, hein, ou la conscience tueuse autonome par rapport au programme, qui, etc. Le jour où on se posera la question de la surpopulation sur Mars. Et je pense qu'il est exactement au point où on en est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aller sur Mars, mais on est en train déjà de se poser la question de la surpopulation. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Parce que le raisonnement des... Il faut dire que c'est un cas tellement beau pour tous les éthiciens conséquentialistes qu'anciens qui passent leur temps à faire des jeux de ce type-là, que évidemment ils ont un cas d'école pour faire du conséquentialisme qu'ancien, voilà. Alors que si on entend quand même ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur le petit décalage qui se joue entre la substance et la procédure, la voiture n'est pas en train de choisir petite vieille et trois petites filles. Là, la voiture, elle est en train de faire de la perception de formes avec des patterns qu'elle identifie à des modèles d'apprentissage, etc., pour essayer de dire, de qualifier l'objet qui, vitesse de déplacement, forme, etc. Les catégories, évidemment, petite vieille et trois petites filles, ne sont pas présentes dans son raisonnement. La machine raisonne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on rate avec cette affaire, c'est que la machine, elle produit bien un raisonnement. Et donc, s'il y a à faire, les juristes vont bien devoir aller voir quel est le type de raisonnement qu'a fait la machine, mais qui ne mettent pas petite vieille, etc., ils vont devoir voir exactement ce que vous avez dit, c'est est-ce qu'elle a été bien entraînée, est-ce que le modèle est performant, et les avocats des deux assureurs, parce que évidemment c'est des assurances qui vont couvrir, et qu'on va renvoyer, etc., vont devoir débattre sur la qualité, l'efficacité, mais on va avoir des mesures qui vont être des enquêtes industrielles sur la manière dont ça a été fabriqué, formé, vérifié,
comme
testé,
etc. Comme les boîtes noires des avions en cas d'accident.
Voilà. Mais on ne fera pas venir à la barre des conséquentialistes conscients.
Je peux quand même un peu parce que ça existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vrais, par exemple, pas la petite vieille et les trois enfants, mais sur la voiture autonome, hein, bon, parce que ça, c'est une réalité, il y en a déjà beaucoup aussi aux États-Unis, etc. Donc on n'en est pas au point où ils s'écrasent les pieds, mais on en est au point où est-ce qu'on accorde des priorités à certaines voitures autonomes par rapport à d'autres. Et sur quelle base? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le côté démocratique de l'Internet, vous savez qu'il est très discuté, est-ce qu'il faut accorder des priorités? La qualité de service est là pour dire que certains paquets vont aller plus vite que d'autres. Aujourd'hui, Internet, en théorie, est très égalitaire, mais ça se débat depuis 10 ou 20 ans quant à savoir si l'Internet pourrait justement être assujetti aux règles d'économie de marché. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui avec les voitures autonomes, et c'est déjà un sujet de réflexion dans les algorithmes. Donc ça n'est pas de la science-fiction, on n'en est pas avec la surpopulation sur Mars. Aujourd'hui, on s'interroge, et on a parlé des voitures, mais parlons de l'armée, parlons des robots, parce que vous dites les robots tueurs, etc., c'est de la science-fiction, mais enfin, du moins, mais c'est quand même des milliers de
victimes. Autonome.
Mais ils le sont déjà plus ou moins, parce que comme vous savez, c'est vrai qu'ils ne tuent pas tout seuls, mais c'est eux qui décident que celui-là est un terroriste et qu'il faudrait l'abattre. Ça, c'est pas le militaire humain. C'est-à-dire que pendant tout un temps, il fallait reconnaître la personne, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui dit c'est un potentiel terroriste et vous avez peu le choix de l'éliminer ou pas, mais si vous savez que c'est un potentiel terroriste. Donc il y a plein de victimes qui sont
indignées. Mais il faut faire attention, il dit c'est un potentiel terroriste en fonction de règles de calcul et d'identification qui sont un programme humain qui a été décidé en fonction d'un certain nombre de critères.
Donc là, on l'a en retraite. Vous êtes d'accord que ça pose déjà de véritables
problèmes. C'est donc bien l'algorithme qui dit c'est un potentiel terroriste, mais en fonction de toute une série de codifications qui doit être extrêmement complexe, qui a été préalablement codée dans le système. Voilà.
Mais donc c'est bien des algorithmes moraux.
Parce que dans le pays en face, il est identifié comme révolutionnaire.
C'est pas innocent
contre eux.
Ça va bien.
Il y a peut-être encore des questions brûlantes.
J'avais une question un peu plus. Terre à terre, etc. C'était l'évolution quand même du référencement que l'on donne aujourd'hui de plus en plus, les notes que l'on donne. On note son chauffeur de taxi, le Uber, lui-même note, on note évidemment les hôtels, les restaurants, on note les entreprises. Et donc il y a une évolution sur la notification qui va devenir extrêmement importante. Et je trouve que là, vous en tant que sociologue, j'imagine que vous avez une réflexion par rapport à ça. Ça va influencer certainement tous ces algorithmes. Comment vous voyez cette évolution d'une société qui nous note ? Je trouve ça très impressionnant.
Avant que tu répondes, Dominique, on va prendre rapidement les questions, essayer de formuler brièvement et tu essaieras peut-être de répondre brièvement. Peut-être qu'on peut encore rester un peu avec ceux qui veulent après. Alexis, puis allez-y. Alexis.
J'ai le sentiment que les algorithmes deviennent de plus en plus complexes, avec une quantité de données de plus en plus grande, des systèmes massifs en termes de mémoire, en termes de capacité de calcul. Je suis intéressé à vos deux sentiments.
Ça
dépasse ce que l'humain peut encore cerner, capter, contrôler. Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui peut-être des algorithmes qui donnent des résultats où finalement on ne sait plus expliquer exactement
Sur le chef, c'est ce que
c'est le moyen de déjà.
Oui. Alors moi, la question, en fait, suite aux différents débats qu'on a eu, c'est est-ce qu'il y a un principe de précaution qui existe dans ce monde de l'intelligence artificielle?
Ok, c'est une bonne question. Lisbeth.
Vous avez mentionné le comportement et j'aimerais qu'en tant que sociologue, vous répondiez un peu à mon inquiétude que notre comportement est tracé, répertorié comme jamais avant. Et tous ces algorithmes, vous avez parlé de clients Amazon qui achètent des livres, etc., mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça n'a plus à voir avec le contenu de ce qu'on lit, mais c'est ce qu'on fait, où on va, le GPS, le geolocation, combien de temps on passe là, qu'est-ce qu'on achète, où, sur quel site on a passé combien de temps, et même sans lire ce qu'on écrit ou ce qu'on fait, il y a des images de nous tellement détaillées que ça me fait peur. C'est pour des entreprises, pour des sociétés d'assurance qui ne voudront plus vendre des assurances parce qu'on a acheté un paquet de clopes, enfin je ne sais pas, mais aussi un gouvernement qui est maintenant qui est gentil envers nous, mais le jour où ça change et ça tombe dans les mains d'un gouvernement ou de terroristes, ils ont des images de notre vie détaillées de tous les jours qui peuvent faire. Donc je pense qu'on est encore dans une phase d'innocence de ce qu'on sait de nous, mais peut-être tous les consommateurs et les internautes vont aussi prendre des attitudes d'esquive.
Ton point est clair.
Deux petites questions. Vous avez parlé des algorithmes. Google, par exemple, nous apportait de la joie, de la liberté. J'aimerais juste savoir si un internaute chinois dirait la même chose que vous. Et donc, est-ce que c'est pas l'un des dangers des compromissions que Google pourrait faire simplement pour s'assurer son développement à lui ? C'est un exemple très précis. Et deux, on a beaucoup parlé d'amélioration d'algorithmes, de procédures, etc. Et l'amélioration de l'utilisateur là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que lui s'améliore aussi ? Parce que est-ce que le point crucial, ou un des points principaux, n'est pas aussi la conscientisation et la formation des utilisateurs ? Alors, on n'en a pas parlé du tout. Ça me perturbe un peu. Oui, c'est ce qu'on fait nous. On est privilégiés, je veux dire, par rapport à mes enfants, mes etc. Ils ne sont pas au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est un drame d'eux. C'est un drame.
Alors, Dominique, qu'est-ce que tu
sais ? C'est une mission très compliquée. Moi, je pense, notation, c'est effectivement, on entre dans une. C'est très étrange, c'est notre contribution à cette société, c'est que nous produisons ces notes qui viennent individualiser, challenger et créer quand même des situations professionnelles d'incertitude extrême pour tous ces gens qui sont notés et qui tout d'un coup sont mal notés et peuvent être... Donc on entre dans un monde dans lequel... et là je pense que c'est très en lien avec ce que je disais sur l'individualisation, c'est nous entrons aussi dans ces subjectivités calculées dans lesquelles nous sommes calculés, nous calculons les autres et ce calcul devient les indicateurs de confiance pour beaucoup de marchés évoqués tout à l'heure, le marché de services qui sont quand même soumis maintenant à la notation, c'est une partie du marché, c'est, etc. Enfin, après, ce serait plus compliqué, mais c'est bien quelque chose de très, très central. Alors, je vais très vite pour essayer de dire... on ne comprend plus les algorithmes. Et là, j'ai donné des exemples simples avec Deep Learning, mais avec les réseaux de neurones, parce qu'évidemment, on a un problème pour les comprendre, même si on peut comprendre un petit peu de trucs. Mais vous n'imaginez pas ce qui se fait, là, vous avez raison, sur la complexité. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qui se joue pour beaucoup de techniques, c'est qu'on met eux-mêmes les algorithmes en compétition. Ils sont de familles différentes. Donc on met un arbre de décision avec des forêts aléatoires, on va faire un SVM, puis on va mettre du neurone, et puis on fait des salades. Et puis on met dessus un algorithme qui choisit l'algorithme qui donne le résultat pertinent. Le fameux concours de Netflix, qui était un concours comme ça, c'est, en fait, ce qui a gagné, c'est une salade. C'est une salade dans laquelle on a pris les algorithmes de ceux qui étaient rangés 4e, 5e, 6e, 7e, on les a mis ensemble. Alors, beaucoup de choses sont maintenant des compositions dans lesquelles, en fonction des contextes que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, finalement, on va prendre la pertinence plutôt sur un calcul de type SVM ou plutôt sur un calcul de type... Bayésien naïf, etc. Enfin, donc on comprend plus ce qu'il y a dedans, personne ne comprend plus ce qu'il y a dedans, et ça devient très très difficile de comprendre.
C'est comme les produits financiers, on sait comment ça se termine.
Voilà, et non, mais c'est un enjeu assez complexe. Alors, ne pas comprendre, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas ce qu'on a mis à entrer, ce qui sort, et qu'il y a des réglages, etc. Donc les gens très optimistes disent si on va toujours arriver à comprendre, et là il va falloir produire une intelligibilité un peu compliquée. Plus difficile sur ce à quoi il procède. Mais ce qu'on ne sait plus comprendre, c'est la décision unitaire. On va comprendre la forme des systèmes. Mais si vous demandez, c'était une blague habituelle à Brin et Page de journaliste, c'était de leur demander j'ai mis tel mot-clé, puis il y a ça qui est sorti, expliquez-moi pourquoi. Ils se disent je ne vais pas expliquer. Parce que ça peut changer en fonction de plein de contextes, de l'histoire de l'utilisateur, des autres mots-clés qui ont été mis. Enfin voilà. Donc, c'est un monde compliqué et qui, du coup, ça crée chez beaucoup des débats. Bernard Stiegler, par exemple, était très, très effrayé par ça. Parce qu'évidemment, c'est l'idée que le calcul n'est plus un moyen de connaissance lié à la science, à la compréhension du monde, mais que c'est une boîte noire dans laquelle le critère, c'est qu'il est efficace ou pas. Et ça, il faut qu'on ait du coup ce critère pour mesurer l'efficacité. Mais qu'au milieu, il y a une boîte noire. Et donc, prédire et connaître, ce n'est pas la même chose. Et que la société de prédiction est une société dans laquelle, on en discutait tout à l'heure, je ne sais plus, on n'a pas forcément besoin de connaître comment ça a fait, mais si c'est efficace, on va le garder. Alors, ce qui me permet de dire, alors, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'Antoinette Rouvroy sera bien meilleure que moi. Alors, elle a un argument qui est très pervers. Je vous déflore son truc. Mais moi, j'avais à l'attendre. Mais Thomas Bernd aussi, Thomas et Antoinette disent on est complètement tracé, comme vous l'avez dit. Vraiment, comme vous l'avez dit. Mais en fait, ce n'est pas notre vie privée qui est dans les traces. C'est une sorte de fantôme. C'est une sorte de. Voilà. D'ensemble de signaux qui effectivement sont des choses qu'on a faites, mais c'est pas nous. C'est quelque chose de calculable, c'est quelque chose qui entre dans la machine statistique pour produire tous ces rapports
de
probabilité.
Mais là, c'est du doux rêveur.
Mais c'est alors d'une certaine manière c'est vrai si on reste dans le monde à peu près tranquille des intérêts économiques des entreprises qui effectivement encore une fois le cookie ne connaît pas votre nom, il se fout complètement de vous, complètement de vous. Ce qu'il veut c'est que vous cliquiez sur son truc publicitaire pour qu'il voilà. Simplement évidemment c'est la greffe côte est côte ouest, c'est que dès que si on met du flicage dedans, c'est plus la masse statistique qui produit les effets de système complexe qui produit la valeur pour l'entreprise qui va intéresser. C'est le flic qui va essayer de savoir ce que vous avez fait, d'essayer de vous suivre, etc., etc. Et c'est cette greffe-là qui, évidemment, qui fait très peur et qui fait quand même l'argument de la trace comme fantôme de l'identité d'Antoinette est menacé à cet endroit-là précis, parce que là, évidemment, c'est bien la connaissance intime des sujets et des risques politiques qui y sont associés, qui sont forts.
Le principe de précaution aussi. De...
Alors, ouais. Ben, là, moi, je ne saurais pas quoi répondre. Je pense que ce serait une chose de régulateur. On n'a pas beaucoup parlé de régulation, mais c'est autour de la loyauté qu'il faudrait mettre en place quelque chose sur le contrôle. C'est ce qui est en train de monter. Hein. C'est fascinant quand même, ça monte beaucoup. Nous, en France, là, on a vraiment... là, il y a l'INRIA, le Conseil national du numérique, le Axel Lemaire, etc. Tout d'accord, on est en train de créer une plateforme d'audit des algorithmes avec l'INRIA, c'est les informaticiens en France, avec des sociologues, des juristes, etc. Et puis, il va y avoir de la... Parce qu'on peut les auditer. Hein. Les auditer, ça veut dire on crée des machines virtuelles, hein, et puis on envoie des requêtes en masse, pour essayer de voir les résultats. Et puis on dit, bah, que... et après on va voir les entreprises, et on leur dit, mais comment ça se fait que ça, hein. Aujourd'hui, à la Commission européenne, les fameuses affaires qui traînent, mais qui sont importantes contre Google, c'est des copies d'écran avec huissier. Donc vous voyez, les avocats de Google, ils arrivent, et puis bon. Donc il faut faire de la critique avec des instruments un peu plus forts. Et puis je vais finir, et parce que c'est vrai que j'en ai peu parlé, normalement c'est mon sujet, c'est de dire, bon, les utilisateurs sont centraux dans cette affaire. Alors moi je vais vous donner, c'est pour qu'on se quitte avec un truc un peu optimiste, c'est que là on a parlé de technologies qui nous tombent dessus, etc. Et les utilisateurs, alors c'est ce débat qu'on a un peu engagé sur l'idée, c'est pas moi ça va, mais les autres, hein, c'est qu'ils apprennent. Hein, et c'est que il y a des techniques, et alors qui du coup, moi, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi, ce qui est central, c'est l'éducation. C'est-à-dire que c'est absolument décisif que nous ayons tous, à l'égard de nos pratiques numériques. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on est plongé dedans, mais aussi des capacités de mise à distance, mais cette capacité de la mise à distance, on l'a que si on comprend. Alors une des manières pour moi de le comprendre et de le mettre à distance, c'est de dire que c'est des procédures et que c'est pas intentionnel, hein, et que du coup, du coup, j'ai un rapport plus stratégique avec eux, etc. Donc, ça passe par l'éducation. Ça passe aussi par l'apprentissage. Le monde numérique, c'est un monde de l'autodidaxie. Hein. C'est-à-dire que c'est important de faire des cours, mais c'est souvent les profs qui sont moins compétents que les élèves, etc. Que des trucs. Donc, c'est quand même beaucoup d'effets d'apprentissage. Et en moi, qui suis les usages depuis longtemps, c'est fascinant avec le web à quelle vitesse les utilisateurs ne cesse de mettre en place des boucles réflexives. Alors, on a tous tendance à être un peu paternaliste avec les autres, ils ne savent pas faire, etc. Mais si vous regardez les usages, c'est fascinant. Hein. On raisonne toujours, par exemple, comme si on était sur un seul site. Mais regardez vos comportements à vous. Vous avez 5 onglets ouverts. Quand vous regardez les comportements d'achat, les gens, ils ouvrent toutes les plateformes de e-commerce. Puis ils mettent, quand ils sont attentifs au prix, ils vont comparer, etc. Donc, pensez que l'utilisateur, il n'a pas de ressources tactiques. Alors, c'est une petite ressource tactique, mais qui ruse avec les systèmes. C'est ne pas donner assez de force. Alors, il faut évidemment que la société s'en empare, il faut que les etc. Mais moi, je suis plutôt confiant sur ces systèmes-là parce que toutes les enquêtes d'usage ne cessent de le montrer. Alors, j'ai beaucoup de blagues à raconter sur les objets communicants. On voit bien l'objet communicant, c'est vraiment le pire, celui qui vient se glisser dans nos vies pour nous fliquer de partout, etc., de nous voir. Mais bon, et les gens qui les vendent, d'ailleurs, ne se rendent pas bien compte de ces usages futurs. Faut dire, ça ne marche pas très bien. Les utilisateurs en France, les jeunes de moins de 25 ans, 50% ont AdBlock, hein, pour enlever la publicité. Et puis maintenant, les bloqueurs de pub, vous avez plein de trucs. Si on continue à avoir un rapport aussi pourri avec les cookies, et là, les régulateurs nationaux sont très très mauvais, etc. C'est-à-dire qu'il faudrait séparer les cookies first et les cookies tiers. Les gens vont passer entièrement sous AdBlock. Maintenant, vous avez des outils qui vous permettent... Et on voit bien toute la ruse de l'utilisateur. Des petits add-ons Firefox ou Chrome qui permettent de cliquer toutes les publicités. Et voilà, moi, je crois qu'une des modes de résistance de l'utilisateur, c'est l'obfuscation. L'obfuscation, ça veut dire que... Alors, c'est vrai, on est prisonnier de l'environnement qui a été créé par le monde. Mais on peut très bien, à l'intérieur du monde, produire du faux signal. Hein. Et donc, beaucoup de choses... beaucoup de choses qui viennent aussi des États-Unis, du MIT, etc. C'est des outils dans lesquels on envoie des signaux qui brouillent le truc. Hein. Et donc, c'est l'argument, où faut-il cacher une feuille d'arbre ? Dans une forêt. Et s'il n'y a pas de forêt, construire la forêt. Ben, construisons la forêt. Et donc, ces outils, ils cliquent sur toutes les pubs. Voilà. Donc, en fait, ça pourrait encore plus un marché qui n'est déjà pas très précis dans ses prédictions publicitaires, vous l'avez dû le remarquer, de ce type-là. Alors, sur les objets communicants, c'est fascinant. C'est vous avez des gens... L'objet communicant qui marche bien, c'est pour une fraction, 15-20% des joggeurs. Hein. Mais il rentre chez lui, et puis son téléphone est en panne de batterie, hein, et il va faire sa course, mais il veut que sa course compte dans ses statistiques, parce que lui, il est attentif à ses statistiques, c'est un des usages où le quantified self marche. Et ben, hop, il y a des systèmes maintenant pour faire des fausses courses, un téléphone portable. Les gens, on leur donne un outil vous savez, les respirateurs artificiels pour les gens qui ont des apnées du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, en France, il y a eu tout un débat parce que la Sécurité sociale a réalisé que les gens ne l'utilisaient pas. C'est des machines qui coûtent très cher. Elles voulaient les rembourser. Alors, elles voulaient les rembourser. Il y a une puce dans le système. Alors, les gens, en fait, ils s'en servent pendant une demi-heure. Enfin, certains utilisateurs s'en servent pendant une demi-heure pour s'endormir, puis après, ils l'enlèvent. Et c'est ça que la Sécurité sociale n'aime pas. Alors, ben, ils s'en servent pendant une demi-heure, puis ils le laissent tourner, et puis ils envoient le signal pour faire croire qu'ils ont utilisé l'appareil. Les vieux, on leur met dans les maisons de retraite, on leur met dans les objets communicants, on leur met une puce dans un verre pour vérifier s'ils ont bu leur verre d'eau. Ils peuvent aller manger que s'ils ont bu leurs 3 verres d'eau. Ben, ils ont compris qu'il y a une puce, on remplit le verre, on vide le verre, on vide. L'utilisateur, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nos usages, c'est ça. Hein? C'est que il y a un monde qui est dangereux, hein? Je ne cherche pas à l'étoigner, il y a un monde qui est dangereux, mais nous, on n'est pas sans ressources. Hein? Voilà, ça. Et que c'est ces boucles d'apprentissage qu'il faut aider à se mettre en place, plus une sorte de culture numérique, et d'essayer de comprendre comment ça se passe. Voilà, c'est pour donner une version... Plus.
Merci. Oui. Pour terminer là-dessus, alors, je voudrais juste partager deux frustrations et deux plaisirs. Les deux frustrations sont liées au fait que, la première, on n'a pas suffisamment approfondi, mais on le fera peut-être dans d'autres séminaires, sur vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager, en tant qu'entreprise, par rapport à tout ça, entreprise qui ne soit pas elle-même, je veux dire, productrice de ce type d'algorithme. Là, et je dois avouer, j'en ai parlé avec Thomas Berns, avec d'autres, et pour l'instant, ils me disent, tu le confirmeras peut-être, qu'il y a encore très peu d'études là-dessus.
Ouais, ouais.
Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on veut approfondir, mais pour lequel il y a encore très très peu. Donc, voilà. Mais je suis frustré parce que pour l'instant, je sens que c'est très difficile de vraiment approfondir cette question. Deuxièmement, on a commencé à le faire, mais c'est sur la régulation. Et tu as évoqué l'idée de ces transports de données, etc., qui ferait qu'on aurait des infos. En fait, ce serait un peu comme la SNCB ou la SNCF et tout ce qu'essaye de faire la Commission européenne, c'est de scinder pour beaucoup d'industries l'infrastructure et puis les services pour
les... Mais ça s'appelle portabilité des données, ouais, c'est dans la directive.
Exact. Hein, mais ce qui est intéressant, enfin, moi, en tant que président du ministère des Transports, je l'ai vu, c'est que ça ne marche pas.
Ouais.
Et donc, je me dis, bon... Attends,
ça ne marche pas parce que c'est la SNCB.
Ça, c'est pas vrai. Attends, excuse-moi. Je suis peut-être un peu caricatural en disant que ça ne marche pas. Mais en tout cas, l'idée qu'on va résoudre toute une série de problèmes simplement en scindant les infrastructures du reste, je crois que la Commission elle-même revient sur une série de propositions. Donc, il faut vraiment approfondir. Et moi, ce qui m'inquiète, au-delà de ce qu'a dit Jacques, c'est que je pense que, en général, les administrations sont complètement dépassées par les avancées technologiques qu'il y a dans l'Amérique. Et donc, elles courent derrière, mais de très, très, très loin. Au niveau des deux plaisirs, je dirais que ce qui m'a beaucoup plu, c'est tous les liens déjà que tu as pu faire avec le séminaire de Luc, ce qu'on va faire avec Hugues par après, puis avec Antoinette. Donc c'est une petite satisfaction personnelle. Je sens qu'il y a une certaine structure dans notre cycle qui se met en place alors qu'il n'est pas encore terminé. Et surtout, alors, je voudrais terminer, c'est le plaisir, c'est dire, ok, j'ai pas réponse à toutes les questions, loin de là, mais je pense que tout ce que tu nous as dit nous aide déjà à mieux comprendre ce qu'on vit et alors à agir. Et je voudrais simplement te citer en lisant les dernières lignes de ton livre, parce que tu fais l'analogie avec le GPS. Hein, vous savez, les GPS nous aident énormément, mais quelque part, ils nous ont fait perdre toute une série de qualités, de se repérer, etc. Et en fait, ce qu'on a fait ce soir, c'est un peu essayer de pallier à tout cela. On n'a pas de solution exacte pour s'en sortir, pour se désenvoûter, mais tu nous as permis de mieux comprendre le paysage dans lequel on opère, et c'est ce que tu dis à la fin. Nous n'allons pas en revenir au voyage de groupe et à leur guide omniscient. En revanche, nous devons nous méfier du guidage automatique. Nous pouvons le comprendre et soumettre ceux qui le conçoivent à une critique vigilante. Il faut demander aux algorithmes de nous montrer et la route, et le paysage. Et ce soir, tu nous as aidé à mieux comprendre le paysage. Merci beaucoup. Pour ceux qui le veulent.
le 28 mars avec Hugues, et vous avez vu que...
Le
28 février. 21 mars, excuse-moi. Et avec Antoine, avec Antoinette Trouvois, le 8 mars. Merci, bonne soirée. Donc le 21 février et le 8 mars. Bonjour.